Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous propose de faire une première lecture dans notre Bible. Elles sont très courtes, hein? Alors, première lecture dans le livre des psaumes, le psaume 37 et le verset 7. Alors, c'est l'exposé du principe que nous allons étudier ce matin, que nous allons méditer, parce que la foi en Jésus-Christ, être chrétien, ça suppose porter des fruits spirituels, hein, j'entends, des transformations de tempérament et de caractère, une vie changée. Et voilà ce que nous lisons, c'est un psaume de David, peut-être était-il inspiré pour lui-même lorsqu'il a écrit ce psaume 37, et au verset 7, il dit ceci, « Garde devant l'Éternel, garde le silence, devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Ça nous rapproche naturellement du sermon sur la montagne, où il nous est donné, eh bien, une attitude à avoir devant les oppositions, devant les adversités, devant tout ce que nous pouvons connaître. Garde le silence, ne te révolte pas, c'est pas facile. Et espère en lui. Tes problèmes, il les connaît. Il sait ce que tu as vécu cette semaine. Il connaît peut-être les confrontations, les disputes qui te sont opposées. Alors, surtout, ne t'irrite pas. Fais confiance. Ne t'irrite pas. Particulièrement contre celui qui réussit en faisant le mal. Parce que bon, on va quand même pas être jaloux de ceux qui font le bien, faisons comme lui. Mais ne t'irrite pas contre celui qui fait le mal et qui réussit. Parce que, il faut dire que nous sommes dans un monde mélangé, hein, c'est pas du blanc, c'est pas du noir, c'est du gris, hein. Et c'est vrai que nous sommes confrontés dans le monde, aussi divers soit-il, dans la vie peut-être professionnels, d'entreprises, à travers toutes sortes de contacts que nous pouvons avoir avec les uns et les autres, il y a des gens qui réussissent en faisant le mal. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. L'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins en disant, et c'est difficile pour nous les chrétiens, parce que bon, on a vraiment une mentalité qui est contraire. On dit, on se prépare quand on fait le bien, eh bien avoir une réussite, mais une réussite qui ne nous glorifie pas nous, mais qui glorifie Dieu, qui finalement met en avant qu'il y a une récompense pour le bien. Mais il y a le contraire aussi. Il y a des gens qui sont tellement tortueux, malicieux, ça se passe dans leur tête, et qui combinent toutes sortes de choses et ils y arrivent. Ça, c'est vraiment un mystère, hein. Alors, laisse la colère. Abandonne la fureur. La fureur, c'est quand même le degré au-dessus, hein. Ça fait de la poussière, hein, la fureur. Ça vous est arrivé de vous mettre en colère? Jamais. Attendez, je vous verrai à la fin. Et la fureur, oh là là, parce que quelquefois il y a des colères qui dépassent finalement la mesure. Et la fureur, c'est quand on perd contrôle de soi, hein, naturellement. Hein. Abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Et voilà la conclusion qui nous est donnée dans ces deux petits versets. Ça serait mal faire. Le principe, il est là. Ne regarde pas ceux qui réussissent en faisant le mal. Ne les imite pas. Parce que si toi tu veux les imiter, eh bien tu vas avoir quelque chose qui va... Eux, ça les culpabilise pas de taper sur la tête des autres, de les écraser, de les mettre en miettes. Ça les dérange pas. Ont-ils une conscience? Ils ont que la conscience de leur intérêt, hein, de leur orgueil. Mais dans ce qui nous est dit, mais pour nous, pour celui qui jette des regards attentifs, hein, et qui sont disposés à mettre la parole de Dieu en pratique, eh bien, Dieu nous dit, mais c'est mal faire. Non seulement tu vas troubler ta conscience, tu vas te désavouer toi-même, tu vas te discréditer par rapport à toi-même, ça c'est déjà un problème. Alors, laisse ça de côté et on va voir un cas dans la Bible d'un personnage. Il y a un livre qui a été écrit, il porte son nom, en quelque sorte. C'est un prophète et je voudrais vous dire que c'est un modèle du genre dans l'irritation. C'est un modèle du genre. C'est un serviteur de Dieu. Oh là là, où je vais m'aventurer. Vous allez peut-être penser que tous les pasteurs, ils sont comme ça, ils se mettent en colère. Ouf. Voilà, hein. Alors, Jonas, ça vous dit quelque chose? Ah, mais tout le monde connaît Jonas. Un petit livre qui a 4 chapitres. C'est pas grand-chose, hein, mais il fait partie quand même des livres bibliques. Et s'il a été écrit, ce livre, c'est pour nous montrer, finalement, eh bien qu'il y a de grandes leçons à tirer, que bien faire, toujours et encore bien faire, sans se fâcher, sans se mettre en colère, sans s'irriter, sans devenir furieux, eh bien, c'est toujours une grâce et une bénédiction de Dieu. Et la partie n'est pas facile. On va voir ça. Alors, dans Jonas, chapitre 4, verset 1. Il n'y a qu'un verset, et puis après je ferai le détail du texte, hein, d'accord? Alors, Jonas, ça se trouve où? Dans la Bible, bien sûr. Vous avez déjà lu le livre de Jonas? Ouais? Alors, on connaît hein, l'histoire du bateau qui s'en va dans le sens contraire, parce que les vents soufflent dans ce sens-là. Et puis on connaît l'histoire du grand poisson. Voilà, eh, il avait faim le poisson. Hein. Enfin, vous lirez ça, c'est très intéressant. Ça, c'est des histoires que l'on raconte au club des enfants quand ils sont petits. Hein. Voilà, Jonas et le grand poisson. Alors Jonas, chapitre 4. Il y a de grandes discussions chez nous. Ça y est, mais vous ne mettez pas en colère. Jonas, chapitre 4, verset 1er. Ou alors, on va lire le verset 4 seulement, parce qu'après je reviendrai, je repasserai. Alors, l'Éternel répondit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Ça revient à ce que nous avons lu tout à l'heure. Ça serait mal faire. « Fais-tu bien de t'irriter ?» Voilà, donc on en est là. Figurez-vous, et paradoxalement, est-ce que vous savez ce que veut dire Jonas ? Le nom, parce que tous les noms hébreux ont une signification. Ça veut dire colombe. En quelque sorte, si vous voulez que je vous présente le personnage, c'est un faucon qui est déguisé en colombe. Ça vous va? Hein? Ça vous fait sourire, hein? Eh oui. Parce que il est question du problème de l'irritation. Et une colombe, doux comme une colombe, paisible comme une colombe. C'est vrai, sage comme une colombe. Et lui, il a un nom qui lui va vraiment pas beaucoup. Hein. Alors quand les gens voient Jonas, ils se disent, eh oui, c'est pas tout à fait le personnage qui est produit. J'aimerais vous donner, eh bien, quelques traits de son caractère, parce que c'est intéressant. Hein. Ça nous ressemble tellement les uns et les autres, pas tout le monde, mais sur un point, sur un autre, vous savez, on se ressemble tous. Le caractère. Il est bourré de préjugés. Ça commence bien. Il est israélite hébreu et il aime pas les nations qui sont autour. Les nations qui sont autour, il y en a pas mal autour d'Israël. Et pour lui, ce sont des païens, ce sont des inconvertis, ce sont des sans-loi, ni Dieu, ni diable. Enfin, le diable, il l'avait, mais toujours est-il sans Dieu. Et il est bourré de préjugés. Alors, Dieu, pour essayer de le guérir, va lui donner une mission, non pas en Israël, mais dans les peuples païens. Oh, vous vous rendez compte? Vous n'aimez pas une chose, et c'est là où Dieu va vous dire, eh bien, écoute, tu vas aller faire un petit tour, tu vas faire une petite promenade, tu vas voir comment ils vivent. N'oublie pas, Jonas, que c'est quand même moi qui suis le créateur de tous les hommes. Vous allez voir la leçon. C'est pas mal. Non seulement il est plein de préjugés par rapport aux étrangers, mais en plus, il est individualiste. Et Dieu lui dit, on va faire équipe. Alors Jonas répond à Dieu, non, carrément. Moi, je suis capable de me débrouiller tout seul. On va voir comment il va se débrouiller tout seul. En plus, c'est un égoïste. Oh là là, mais attendez, vous allez dire qu'est-ce que c'est que cette catastrophe. Mais j'ai pas fini, hein. C'est un égoïste. Il ne pense qu'à lui. Il se dit, moi les autres, j'en ai rien à faire. Qui se débrouille avec toute leur religion, avec leur tradition, etc. Moi, je suis israélite. Vous avez remarqué, je suis le plus beau, le plus intelligent et le meilleur de tous. Comme ça, c'est vrai que ça arrête un peu la conversation. Un petit peu l'ancêtre des pharisiens, vous savez, du temps de Jésus. Hein. En plus, ça vous dérange pas que je continue un peu là? Oh, le pauvre. Mais Dieu arrive au bout de toutes les personnalités. Il a une mauvaise volonté. Dieu lui dit, tu vas aller à Ninive, la grande ville du grand empire d'Assyrie, qui a régné sur le monde pendant à peu près 200 ans, de 800 à 600 avant Jésus-Christ. Des rois puissants, des empereurs. Tu vas aller à Ninive. Dieu lui dit, écoute, je t'envoie là. Jonas dit à Dieu, moi, j'irai là. C'est-à-dire complètement dans le contraire. Tu vas aller à l'Orient, Ninive dit, moi, je vais aller à Tarsis. Tarsis, c'est, d'après les traditions et peut-être la géographie même de l'époque, c'était, disons, la direction de l'Espagne. Ouais, il voulait voir une corrida. La corrida, il va l'avoir. Hein. Mauvaise volonté. Et il refuse tout ce que Dieu lui dit, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et il est obstiné, hein, Jonas, hein, c'est, j'allais dire un breton, non. Bah, vous souriez parce qu'on n'est pas en Bretagne ici, dans les Pays de Loire. Bon, obstination d'avoir toujours raison, j'ai raison. Et même avec Dieu, il a toujours raison. C'est Dieu qui se trompe, figurez-vous. C'est comme ça. Et son défaut majeur, c'est qu'il est irritable au plus haut point, et c'est le résultat de ses contrariétés. C'est-à-dire qu'il n'est jamais content. En permanence, il est contrarié. Pauvre petit Jonas. Vraiment, personne ne l'aime. Mais remarquez, il n'aime personne non plus. Et à chaque fois qu'il y a une vexation, une contrariété, bah, ça déclenche chez lui finalement l'effet contraire. Il fait la moue. Ouais. Et puis, comme on dit, il fait du boudin. Je prends un langage, vous comprenez, hein. Voilà. Et il est vraiment pas gentil, notre Jonas. Il reçoit malgré tout son caractère impossible, une mission de Dieu. Figurez-vous. Dieu l'a choisi lui et pas un autre. Alors quelquefois on pourrait dire à Dieu, mais dis donc, tu te trompes pas sur le personnage? Vous savez que Dieu a choisi des Moïse. Moïse était un criminel. Il avait tué un homme. Il a choisi des David, qui, malgré toutes ses grandes qualités, il avait aussi des défauts, et quelques-uns. Hein. Il a choisi des gens comme Jacob, qui était un roublard, Jacob. Et pourtant, ce sont des hommes qui ont eu des grandes missions dans le royaume de Dieu. Et c'est vrai, on le lit dans la Bible. Alors il est contrarié. Sa mission, donc, c'est de réaliser la volonté de Dieu, dont l'objectif, et on en a parlé tout à l'heure, l'objectif particulièrement sensible et délicat, c'est de convertir, c'est de prêcher le message de Dieu, c'est d'apporter finalement, eh bien, le salut à un monde qui non seulement est profondément païen et occulte, avec des idoles et toutes sortes de choses, et d'aller prêcher cette parole dans la capitale qui s'appelle Ninive, capitale d'empire. Imaginez-vous, c'était quand même pas peu de choses. Eh oui. Et on peut s'imaginer déjà à cette époque-là, hein, c'était quand même 800 ans avant notre ère. Courageux. Et il y va tout seul. Hein. Dieu lui dit, tu vas y aller. C'est toi que j'ai envoyé, c'est pas un autre. Hein. Il aurait pu dire, mais Seigneur, tu sais, j'ai un tel bon caractère, ils vont tous se convertir.
Ouais.
Alors, on va reprendre notre texte, chapitre 4, versets 1 à 3. On va voir un peu ça. Dieu, donc, va faire ce grand miracle de convertir, et c'est ce grand enjeu, c'est un défi, hein, de convertir un peuple qui est contre Dieu, un peuple d'idoles, un peuple avec des faux dieux, avec des fausses doctrines, avec l'adoration dans des temples qui sont des temples de ténèbres. Et Dieu va envoyer naturellement notre ami. Alors, verset 1er. Cela déplut fort à Jonas. Quand le mot est marqué fort, ça voulait dire que c'était certainement pas, comme on dit, sa tasse de thé. Donc, cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et lui dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. » Il dit, « Seigneur, moi, je préfère mourir que d'y aller. » Il y a de la bonne volonté quand même, hein, pour passer de l'autre côté. « Ouais, je préfère mourir, c'est pas possible, moi, je n'ai pas envie d'y aller, tout simplement. » La surprise, elle est de taille, la surprise, elle est inattendue, c'est que il va quand même y aller, Jonas. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais il va pas pouvoir faire autrement, il va y aller. Et la prédication de Jonas a un énorme succès. En Israël, ça marche pas ou ça marche plus. Dans des pays païens, au possible, comme à Ninive, eh bien, ils prêchent la parole, ils prêchent Dieu et ça marche. Allez comprendre quelque chose dans cette affaire, hein. Ça vous donne pas des inspirations, là, pour aller, vous allez faire un petit tour en Afghanistan ou dans tous les pays, là, en disant « Je vous annonce Jésus-Christ !» Enfin, on espère qu'on vous reverra. Alors, ça a du succès, tout simplement. Et figurez-vous, c'est curieux, eh ben, il y a des textes comme ça dans la Bible, hein, c'est vrai que c'est quand même assez humoristique. Hein. Ce qui se passe, c'est que les Ninivites se tournent vers Dieu et se convertissent. Et au verset, on va lire l'autre passe. On reprend maintenant chapitre 3. On va faire un petit tour d'horizon sur ce qui s'est passé. Il y va, il prêche, écoutez bien ce qui se passe. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » C'est la grâce avant le jugement. C'est l'évangile avant la condamnation. C'est l'offre merveilleuse de Dieu avant que les hommes passent de vie à trépas. L'occasion finalement est bien de faire la paix avec Dieu. C'est formidable. C'est l'évangile avant l'évangile, hein. C'est la miséricorde de Dieu, même dans l'Ancien Testament, qui était quand même un régime de loi. Ouais. Alors, il a crié quand même, et il disait, 40 jours, encore 40 jours, Ninive est détruite. Mes frères et sœurs, vous faites ça à Saint-Nazaire, une fois, et je vous retrouve au commissariat de police. En expliquant que dans 40 jours, il n'y a plus rien à Saint-Nazaire. Oh. Non, mais restons... Gardons raison dans tout ça, parce que ça c'est l'Ancien Testament, mais c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Il y a quelque chose. Moi je crois à la valeur des prophéties bibliques quand elles se réalisent, et non pas quand elles se réalisent pas. Il y a quelquefois des gens qui sont un petit peu éthérés, qui sont entre ciel et terre, qui se prennent pour des prophètes et qui annoncent ceci et cela, et puis ça se fait pas. Alors si ça se fait pas, c'est que ça vient pas de Dieu. Je le dis au passage. Voilà. Et nous avons au verset 10, cette parole, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, c'est-à-dire que les Ninivites se sont convertis, hein, toujours chapitre 3, verset 10. Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Et on reprend, et cela déplut à Jonas. Vous vous rendez compte? Ça, véritablement contrarié, vexé, il s'est mis en colère, il s'est mis en fureur, Jonas, parce que finalement les gens se convertissaient. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans 8 jours, si la salle était remplie, à plein craquer, vous seriez content ou mécontent? En disant, tu nous en donnes de trop, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, je suis obligé de faire encore moins 10 ans, à ma retraite. Je sais que vous attendez que ça, hein. Mais moi, je pars en vacances. Et Jonas n'est vraiment pas content. Mais nous, on serait content. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, vous peut-être, moi un peu moins, mais bon. Alors, il n'est pas content et la réussite de sa mission débouche sur cette anecdote originale que nous allons lire au verset 4. D'abord, l'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter, de pas être, d'être en colère, parce qu'une chose réussit, parce qu'il y a une bénédiction, parce que j'exauce finalement le repentir de tous ces pauvres gens, et toi, t'es pas content. Il n'y a rien à y comprendre dans tout ça, naturellement. Fais-tu bien de t'irriter? Et cette anecdote, c'est la suivante. C'est une forme de parabole, en quelque sorte. Et Jonas sortit de la ville, et il s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane. Il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin. C'est un petit arbuste en Orient qui peut devenir un arbre, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Dieu est bon, hein? Faire pousser un arbre en l'espace d'une nuit pour que vous soyez à l'ombre. Ouais. Mais tout ça, c'est lié naturellement au caractère, hein? Alors, voilà le traitement de Dieu qu'il va donner à son prophète pour lui ôter la colère. Il y a deux sortes de colère, si vous permettez. Il y a la colère chaude, et il y a la colère froide. Laquelle est la meilleure? Préférez congeler ou préférez bien chaud? Vous ne prenez pas, hein, c'est normal. Et je pense que il avait les deux. Hein. Elle était froide parce qu'il se met dans un coin, il murmure, il est en train de... Et c'est prêt à exploser, c'est un volcan qui est prêt à bondir. Et Dieu lui dit, bien écoute, moi, tu t'es construit un petit abri comme ça en attendant que ça passe. Hein. Et il lui dit, je te mets à l'ombre. Et il fait pousser un ricin, vous savez, c'est un arbre qui peut avoir une forme de parasol, on pourrait peut-être cela. Il se met à l'ombre et il avait une intention jusqu'à ce qu'il voit ce que ça va se passer. Ça marche ou ça marche pas finalement la conversion? Ça va se passer, ça va être les résultats. Il aurait pu dire si ça n'était pas marché, ah tu vois Dieu, j'ai eu raison de ne pas t'obéir, parce que ça fonctionne pas ton truc là. Ah non. Et il est là, il attend et il fait chaud dehors. Hein. Ouais. Il fait chaud puisque on va le voir d'ici quelques temps, c'est jusqu'à ce qu'il voit ce qui arriverait dans la ville. Alors, il y a un proverbe qui nous dit ceci, que l'irritation ne te porte pas à la moquerie. Soit l'irritation peut nous amener à la violence physique, la violence verbale, ou alors à se moquer, comme par exemple les pharisiens et tous ces gens qui étaient autour de la croix, voyant Jésus crucifié, en disant, mais regardez, c'est rien. Voilà. Il nous a raconté des histoires. Et il se moquait. Il nous a dit que les magistrats, les prêtres à Jérusalem se moquaient de Jésus. Mais attendez, ils n'avaient pas tout vu. Hein. Parce que même quand on met Jésus dans le tombeau, il en sort. Mais il en sort vivant. C'est bien la différence. Hein. Alors, ne t'irrite pas, que cela ne t'amène pas à la moquerie. Et voilà que le lendemain, mais le lendemain, verset 7, à l'aurore, au petit matin, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort est préférable à la vie ». Voilà un gars qui est plein de dynamisme et qui est en pleine forme et qui espère en Dieu. Eh oui. Il y a un sens emblématique de cette mort du ricin, là. Vous savez, ce petit arbre qui a poussé en l'espace de peu de temps, avec une croissance très, très rapide, et il était content, il s'est réjoui, puisqu'il nous a dit qu'il éprouva une grande joie à cause du ricin, parce qu'il avait sa petite maison, il avait son ricin, il était à l'abri, heureux, notre Jonas. Mais chaque jour n'est pas le même. Et le lendemain, quand le soleil s'est levé, Dieu a fait venir un ver. Vous savez, un petit ver là. Hein? Et il a rongé le ricin, et le ricin a séché. Donc, il était tellement content la veille. Et le matin, quand il s'est réveillé, il a dit, mais il est beau ce ricin. Hein? Ça glisse, hein. C'est comme du ricin, hein. C'est pareil, hein. Et à un moment donné, au matin, il s'est dit, mais il a pas bonne mine, mon ricin. Il a pas la même. Il est pas comme hier soir. Puis au fur et à mesure que le soleil s'est élevé dans le ciel, il a commencé à faner. Et quelques temps après, quelques heures après, c'était plus qu'un truc complètement rabougri qui, finalement, n'avait aucune tenue. Alors, en plus, le ricin va disparaître, plus d'ombre. Dieu a fait lever un souffle, un vent chaud d'Orient, et le soleil a attrapé sur la tête, et il n'avait pas pris son chapeau, eh bien, la tête du pauvre Jonas qui n'avait plus où se mettre pour finalement, eh bien, se protéger. Mais remarquez, vous savez l'image de la tête, hein, ça se passe dans notre tête, hein, tout ça. Quelquefois, ça surchauffe, hein. La colère, la pensée, et puis le ressentiment. Et puis, quelquefois, on a des rancunes. On a toutes sortes de choses qui bouillonnent à l'intérieur de nous-mêmes, etc., etc. Et plus on y pense, plus on y pense, et plus ça augmente. Eh oui, bah, c'est le vent chaud, hein, c'est ça, hein. Frappe à la tête de Jonas. Et à un moment donné, notre pauvre Jonas, qui croyait être si fort que ça, il a commencé à avoir les yeux qui faisaient ça, vous comprenez? Dans tous les sens, là, comme ça. Ouais. Il frisait l'évanouissement, hein. Bah, il avait chaud, ça, c'est sûr, hein. Il demanda la mort en disant, Seigneur, moi, je veux mourir. Je veux mourir. Ça vous est déjà arrivé quand vous êtes désespéré de vouloir mourir? Ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde, hein, c'est vrai. Mais bon, dans le cas de Jonas, c'était quand même un peu particulier parce que il était en pleine désobéissance et il était en contrefaçon avec la pensée de Dieu, hein, quoi qu'il en soit. Alors, il demande tout simplement, eh bien, de partir. Et vous savez, c'est quand même curieux, quand vous avez eu un succès formidable, comme Jonas en a eu, vous avez un succès formidable comme Élie en a eu, vous savez, quand il a vaincu les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et là, après avoir un tel triomphe, de voir la gloire de Dieu, le miracle de Dieu, des choses extraordinaires, ce soit Jonas ou Élie, il tombe dans la déprime. C'est curieux ça, hein? Il y a des gens qui disent « Je sortirai de ma déprime si tu me fais voir de grands miracles. » Ben, vous avez le cas contraire. Et on s'aperçoit que c'est pas ça, hein? Non, non, c'est autre chose naturellement, c'est autre chose. Alors après succès, et Dieu va lui dire « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Est-ce que c'est ça ton problème ? Est-ce que c'est ce malheureux petit arbuste qui a fané? Est-ce que c'est ça véritablement ton problème à toi ?» Ça voulait dire tout simplement, mais Jonas, moi ton problème il est pas dans le ricin. Parce qu'avant que tu viennes là, il n'y avait pas de ricin, je l'ai fait pousser, et puis en une journée il est mort. Donc le problème il est ailleurs. C'est dans ta tête, c'est dans ton cœur, ce sont tes dispositions. C'est là, finalement, eh bien ta mentalité. Et je suis en train de te faire une chimiothérapie pour le dessécher, en quelque sorte, pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme ça, hein, pour dessécher une tumeur, ou là, je ne sais quelle mauvaise cellule, voilà, on les brûle, on les dessèche, naturellement. Et ça, c'était le problème, c'était son problème. Est-ce que tu as raison de t'irriter à cause du ricin? Il y a un fruit de l'esprit dans la parole de Dieu qui nous est donné dans Galates chapitre 5 et verset 20, où il nous est parlé, entre autres, il nous est parlé de la tempérance, où il nous est parlé de la maîtrise de soi, parmi d'autres. La maîtrise de soi, ça s'apprend. La maîtrise de soi, ça s'acquiert. Et jusqu'ici, dans tout ce que nous avons lu, là, dans ce que nous avons bien évoqué, on s'aperçoit d'une chose, c'est que, il a fait la preuve qu'il n'était pas maître de lui-même, qu'il se laissait emporter partout et pour rien. Et peut-être, quelquefois, si nous nous reconnaissons, et c'est pas un jugement, pas du tout, hein, moi je suis pas là pour juger qui que ce soit, mais quelquefois, nous avons des tempéraments, c'est pas pour ça que Dieu ne va pas se servir de vous, hein, mais il va vous préparer avant, ça c'est clair, pour nous changer, nous transformer, et nous amener, comme il l'a fait avec Moïse après 40 ans dans le désert de Madian, où on pourra dire de Moïse, où la Bible dira de Moïse, Moïse était l'homme le plus doux, et le plus débonnaire de toute la terre. Mais avant, il ne l'était pas. Voilà. Et pour chacun d'entre nous, il veut transformer notre caractère. C'est bien de voir des miracles. C'est bien de faire des choses extraordinaires. De voir le ciel descendre au milieu de nous, ce qui est aussi notre foi. Mais vous savez que Dieu veut faire quelque chose aussi de particulier. et particulièrement lorsque nous avons l'intention de le servir d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les déclinaisons de notre service. Mais une chose, c'est que le principal pour Dieu, c'est pas de voir des aveugles voir, des boiteux marcher, et des choses extraordinaires qui ouvrent le ciel et qui nous met dans, là, l'émerveillement, c'est que c'est notre vie intérieure qui va changer. Et ça, c'est le principal. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous prépare, non pas seulement pour cette terre, c'est bien qu'il nous prépare pour cette terre, pour que nous puissions vraiment être dans des relations sociales, des relations humaines qui soient équilibrées et bonnes, et qui plus est, aimez-vous les uns les autres, mais il nous prépare pour le ciel. Parce que sur la terre, ça dure pas longtemps. Enfin bon, ça peut durer 80, 90 ans, 100 ans, hein, c'est vrai. Mais le ciel, ça ne finit jamais. C'est éternel. Et il est en train de préparer notre tempérament pour la dimension du ciel. Et c'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit à la ressemblance de Jésus. Comment pouvons-nous concevoir que si on n'aime pas quelqu'un sur cette terre et dans le ciel, que nous nous retrouverons là-bas parce que nous aurons cru au salut communément les uns et les autres en Jésus-Christ, et que vous verrez de l'autre côté, c'est un petit clin d'œil, hein, que vous verrez quelqu'un que vous n'avez pas aimé sur la terre, vous allez changer de trottoir à chaque fois? Qui vous dit qu'il y a des trottoirs et des avenues? Je me perds dans mon imagination. Non mais c'est un petit clin d'œil que je fais au passage, parce que c'est maintenant que ça se prépare. Il veut nous changer de l'intérieur, que nous puissions porter les fruits à sa gloire, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la tempérance, la fidélité, la douceur. Oh, il en manque toujours un quand je les cite. La bénignité, c'est-à-dire le support, finalement, eh bien, des épreuves et tout ça. Eh bien voilà, naturellement. Et je dirais que la tempérance ou la maîtrise de soi, c'est le mot-clé de notre jour, d'aujourd'hui, hein, particulièrement. C'est un fruit de l'esprit. Dans les Proverbes, au chapitre 16 et au verset 32, il est dit ceci, que je cite le passage. « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Toute décision vient de l'Éternel, quoi qu'il en soit. » Eh oui, si nous arrivons à nous maîtriser, si nous arrivons à nous calmer nous-mêmes, avec la grâce que Dieu nous donne, parce qu'on n'y arrivera peut-être pas tout seul, eh bien, moi je dis que c'est une grande victoire, naturellement. Mais vous savez que Jonas n'est pas tout seul dans la Bible. Vous vous souvenez de l'histoire de Caïn? Vous savez ce qu'il est dit? Et Caïn s'irrita contre Abel, son frère, et il le tua. Premier meurtre de l'humanité, et c'était la première guerre entre les hommes. Mais là, c'est entre frères. Mais sommes-nous pas finalement tous pères, enfants d'un même père céleste? Et il l'a tué. Il s'est irrité. Vous savez que l'irritation va jusqu'au meurtre. L'homme peut être emporté dans un mouvement à un moment donné de violence, et puis voilà. Mais Jonas n'est pas tout seul non plus. Vous connaissez l'histoire, alors je vais vous faire un peu une petite cogiter sur les connaissances bibliques. David un jour s'est irrité et il y a son grand ami qui s'appelait Uzza qui est mort. Quand il a voulu toucher pour attraper le char où était finalement l'arche de l'Éternel. Vous connaissez l'histoire? C'est dans 2 Samuel, relisez ça, c'est passionnant. Pourtant, David était un homme d'exception quand même. Et il a dit, Dieu, tu es injuste, tu as enlevé mon meilleur ami, Uzza. Pourquoi tu as pris sa vie? Mais Dieu avait dit, tu ne toucheras pas. Et le problème, c'est qu'il a touché quand même. Et c'est ça, la chose. Si Jonas n'est pas tout seul, il a un représentant également dans le Nouveau Testament, à travers le fils aîné de la parabole du fils prodigue. Vous savez, il y avait 2 garçons. Il y en a un qui part et qui revient, l'autre qui est resté et qui à un moment donné va claquer la porte parce qu'il est irrité de ce que le père reçoit son fils qui revient, son frère qu'il appellera le mécréant, celui qui a mangé la fortune de la famille, celui qui a vécu avec des prostituées, celui qui a dilapidé tout le bien. Et il revient, mais il revient repentant. Et le père le prend, il l'embrasse et lui dit « Mon fils, Voilà, tu es revenu à la maison, mais c'est l'image de l'humanité qui se tourne vers Dieu. Alors le frère aîné qui, lui, garçon bien rangé, bien propre, formidable, il a rien fait de mal et tout ça, tout gentil, méfions-nous. Quand il apprend que son frère est revenu à la maison, alors il entend des chants et des danses, il dit « qu'est-ce que c'est ? C'est pour moi, c'est mon anniversaire !» On lui dit « non, 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 c'est ton frère qui est revenu. Quoi ? Mon frère ? Celui qui a mangé avec des prostituées, qui a fait n'importe quoi, etc. etc. Lui, il revient, mais il n'a pas honte de revenir à la maison. » Alors là, il se met dans une colère. J'y étais pas, mais en tous les cas, il s'est mis dans une colère. Et il va aller voir son père en disant « mais comment tu peux accepter quelqu'un qui revient ? Lui, tu te rends compte de ce qu'il t'a fait ? Ce qu'il nous a fait ? Et toi, tu le prends, tu l'embrasses et tu lui redonnes la place comme avant ? Je savais que tu es un Dieu plein de miséricorde et de grâce. » C'est ce que dit Jonas à Dieu, là, à ce moment-là, hein. Parce que Dieu est un Dieu qui est prêt à accepter tous les hommes qui reviennent à lui, quelle que soit leur salissure et quelles que soient leurs impuretés. Il les prend. Mais ça fait pas plaisir à tout le monde. Comment tu peux le prendre? Alors, il se fâche tout rouge. En principe, c'est la couleur de la colère. Ou violet. Et à ce moment-là, il va dire son père, « Eh bien, tu ne m'as jamais rien donné à moi, etc., etc. » C'est un propre juste. Et à un moment donné, il dit, « Puisqu'il y a la fête, et que c'est pour lui, et que c'est pas pour moi, moi je m'en vais, je quitte la maison. » Voilà. C'est comme ça qu'il y a des immigrés, hein, dans les maisons familiales. Hein. Il y en a un qui rentre et l'autre qui sort. Parce que finalement, eh bien, sa colère a eu le dessus sur lui. Hein. Et tout cela à cause de ce que Dieu est compatissant, et là, la colère. Nous péchons tous les uns et les autres, mais si nous revenons à Dieu en demandant pardon à Dieu, il nous pardonne à l'instant si nous sommes sincères. Vous êtes en colère cette semaine? Je sens que la moutarde me monte au nez. Voilà. Vous êtes soupaulé? Alors on pourrait en sortir hein, comme ça. Hein, ça déborde. Eh bien écoutez, vous demandez pardon à Dieu et vous demandez qu'il vous change. Il vous pardonne. Ne restez pas avec ça, vous allez vous empoisonner, et vous allez empoisonner les autres. Hein. Je sais que tu es compatissant et miséricordieux, lent à colère, irriché en beauté. Vous croyez que Dieu pardonne? Ah, il faut le dire, hein, parce que moi je crois que Dieu pardonne tous les péchés des hommes lorsqu'ils reviennent sincères et repentants. Comparons ce qui est comparable, verset 10, j'ai bientôt fini. Ne vous irritez pas contre moi quand je suis lent. Et l'Éternel dit, tu as eu pitié du ricin qui t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Comparons ce qui est comparable. Mon pauvre Jonas, t'es en train de te mettre martel en tête, t'es en train de pousser une colère, là, t'es en train de te rendre malade. Hein? Tu te rends compte? Toi, tu as pitié d'un pauvre végétal, mais c'est rien! C'est rien à côté d'un homme, à côté des milliers d'hommes. C'est rien, une plante qui pousse et qui fane. C'est normal, hein, on n'a pas tous la main verte. Hein. Alors, il est né dans une nuit, il a péri dans une nuit. Mais tu vas en faire toute une comédie? Moi, ça m'arrive d'élever des plantes à la maison, vous verriez, j'ai un jardin, c'est presque le jardin suspendu de Babylone. Bon, je réussis pas à chaque fois. Enfin bon, vous viendrez chez moi, vous verrez. Mais c'est beau, ça vaut la visite. Hein. Et une chose qui est certaine, quelquefois je réussis, quelquefois je réussis pas. Alors je veux pas pleurer pendant longtemps parce que j'ai pas réussi, c'est tout. Je vais à la jardinerie, j'en rachète une autre et ça me fait plaisir tout à nouveau. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça que de dire « Ah ben elle est morte, elle est morte, elle est morte, je l'ai arrosée. » Bah un peu trop, tout simplement. Je suis en train de vous donner des conseils de jardinage. Hein. Bon, ben suivez tout ce que je dis, mais ne faites pas comme je fais. Alors, donc, on s'aperçoit que quelle différence de valeur y a-t-il entre un misérable ricin qui dessèche et des milliers d'êtres humains ignorants et perdus qu'il faut sauver de leur péché et de la mort, c'est ce que Dieu dit. Y a-t-il une échelle de valeur? Finalement, un animal, c'est vrai que ça fait mal. Une plante, ah, qu'est-ce que vous voulez? Mais quand même, des milliers d'hommes, des hommes, des créatures de Dieu, elles ont plus de valeur que les choses, ou que tout être, finalement, est bien dans la création de Dieu. Il y a une parole que j'aimerais vous citer avant de terminer. Ça va. Il est dit que la charité ne s'irrite point. Vous êtes d'accord? La charité ne s'irrite point. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour excuse tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ben, mon pauvre Jonas, hein, t'es pas né à la bonne époque, hein. Ça, c'est sûr, hein. Alors, Jonas, fais-tu bien de t'irriter et de te mettre en colère? Il y a des broutilles dans notre vie où nous nous mettons en colère, on se dit, mais, ça en vaut vraiment pas la peine, hein. Non? Oui, on s'en aperçoit après, hein. Pas avant. On se dit, mais c'est vrai. Ah, on se reprend, hein, quelquefois, on se dit, mais non, c'est quand même, ça vaut pas la peine, hein, c'est sûr. La conclusion en trois points. Le premier principe que l'on peut tirer, se fâcher, quereller, se mettre en colère, eh bien, se fâcher en s'opposant au bon sens le plus élémentaire et le plus naturel, ne fait qu'élargir le trou de notre déception. J'ai trouvé cette citation, elle est pas mal. Ouais. Parce que finalement, ça ne fait que amplifier notre contrariété, notre vexation, notre frustration, je viens de le dire, hein, notre déception. Et c'est pas sur ce chemin-là, si on règle pas le problème, que nous allons trouver la solution au problème. Ouais. Ça, c'est le premier principe. Toute réparation exige le calme. Si vous faites de la mécanique, c'est une idée qui me vient comme ça, mais si vous faites de la mécanique et vous dites, moi je sais faire la mécanique, je mets les mains dans le moteur, hein, et je commence à tout démonter, etc., mais avec fébrilité. Je peux vous dire, pour remonter, ça va pas être triste. Eh bien, c'est la même chose, parce que je me suis énervé en disant, voilà, il y a ceci et cela. Quand on veut réparer quelque chose, d'une manière ou d'une autre, faut rester calme. Cool. Zen. Ça va, je peux vous le dire dans toutes les langues. Parce que plus vous vous énervez, plus vous avez les doigts, et etc., etc., et puis alors vous avez une planète, encore une autre, etc., vous n'y arriverez jamais. Donc c'est le calme, c'est la patience, et ce sont des bonnes dispositions, sinon rien ne peut s'arranger. Votre voiture, elle va être démontée sur le trottoir. Ça c'est sûr. Troisième point, c'est que Dieu aime Jonas. Ah oui, je voudrais vous le dire, vous, que ce que vous dites, moi il y a des choses qui vont pas dans ma vie, hein, mais Dieu vous aime quand même. Comment peut-il m'aimer? Ben, il m'aime parce qu'il m'a choisi, parce qu'il m'a établi, parce qu'il m'a appelé, et parce qu'il a de grandes ambitions pour moi dans ma vie. Et il faut le savoir, ça aussi, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis rien. Ben, non, mais si, on est quelque chose. Dieu aime Jonas, malgré ses nombreux défauts, détestables et récurrents, parce qu'on peut pas dire que c'était quand même, et il l'aime pour le sauver lui-même. Et ensuite, de ce que nous serons sauvés nous-mêmes, eh bien, nous irons prêcher à Ninive. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, on pourra dire, mais le Seigneur est merveilleux. Il fait des miracles. Il a fait un miracle. Il m'a changé, il m'a transformé et il m'a donné une nouvelle vie. Ça va? C'est bien? Vous souviendrez de Jonas? Ah ouais, il est super. Alors, une petite lecture. Dans cette semaine, lisez le livre de Jonas. 4 chapitres, c'est pas grand-chose, hein. Puis après, vous viendrez. J'espère que ça vous mettra pas en colère. Merci. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ta parole. Parce que nous croyons, Père éternel, que tu nous fais comprendre les choses. C'est vrai, Seigneur. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas la forme qui est importante. C'est l'esprit. C'est le fond, Seigneur. Et ça, c'est important. Oui, c'est vrai que nous pouvons quelquefois rire de nos défauts, de nos maladresses. Des choses, Père éternel, qui sont pas forcément, eh bien, des bonnes choses. Mais néanmoins, Seigneur, nous croyons que tu es capable de nous aimer malgré tous nos manquements et nos faiblesses. Et tu l'as montré pour l'histoire de Jonas. Tu aimes Jonas, tu as aimé Jonas. Et tu n'as pas cédé à Jonas. C'est lui qui, véritablement, à un moment ou à un autre, eh bien, a fait ce que tu lui as demandé. Et nous croyons, Père éternel, que la bénédiction qu'il a eue sous les yeux, c'était de voir des milliers et des milliers d'hommes, de femmes, qui ne pouvaient distinguer leur droite et leur gauche en matière morale, et qui là, eh bien, sont venus à Dieu, et se sont convertis à Dieu. eh bien nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Enseigne-nous ta parole, pas d'une manière magistrale simplement comme ce matin, mais chaque jour, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, de dire, eh bien Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta bonté et ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.